RCF.
Je pense donc j'agis avec Melchior Gormand.
L'école n'est pas un lieu sûr pour les plus jeunes. Les résultats du troisième baromètre de l'éducation d'apprentis d'Auteuil sont édifiants. La récré, les couloirs, mais aussi les salles de classe sont des endroits propices au développement de la violence. Et près de 8 jeunes sur 10 disent avoir subi des violences au sein de leur établissement. Alors en cette journée nationale de lutte contre le harcèlement à l'école, demandons-nous ce matin dans Je pense donc j'agis, comment lutter contre ce sentiment d'insécurité? Comment faire pour que l'école permette vraiment aux jeunes de grandir et d'apprendre sereinement? Nos invités vont nous éclairer dans un instant, et dans la seconde partie de l'émission, on s'intéressera à la médiation, cet outil utilisé dans certains établissements apprentis d'Auteuil et qui porte ses fruits pour prévenir la violence. Ce sera à 10h. Soyez les bienvenus en direct avec vos témoignages. Dites-nous si vous avez déjà subi de la violence à l'école, comment en êtes-vous sorti? Et puis parlez-nous de vos enfants qui peut-être ont déjà rencontré ce cas de figure. Comment les enseignants ont-ils réagi? On vous attend au 04 72 38 20 23. Laissez-nous vos messages par mail à direct@rcf.fr ou dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis.
Je pense donc j'agis. 04 72 38 20 23.
Avec Stéphanie Galère, rédactrice en chef culture et société RCF. Bonjour Stéphanie.
Bonjour Melchior, bonjour à tous. Longtemps, la violence à l'école est restée cachée. On harcelait, on humiliait, on insultait dans les replis obscurs des cours de récréation. L'élève qui allait mal se taisait, les abuseurs, tels qu'ils étaient, quels qu'ils étaient, avaient le champ libre, et les témoins circulaient, il n'y a rien à voir. Je me souviens de ma classe de 5e, notre prof d'histoire-géo, un excellent professeur, tirait les cheveux des filles qui bavardaient et avait l'habitude de mettre sous son bureau un élève qu'il avait dans le nez. Et nous, eh bien nous ne disions rien. Et même, honte à nous, cela nous faisait rire. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, cette violence ne se cache plus. La cour de récréation n'a plus de limites et les victimes, plus de répit. Et en même temps, la parole semble aussi s'être libérée. La prise de conscience est là. Ces agressions, cette maltraitance ne sont pas supportables. Il y a urgence, vous l'avez dit Melchior, hein, que l'école redevienne un lieu d'apprentissage et de socialisation pour tous les enfants et surtout les plus fragiles. Il en va de l'avenir de notre société et c'est pour cela que cette question de la violence nous concerne tous, même ceux qui parmi nous ont depuis bien longtemps quitté les bancs de l'école. Alors ce matin, en compagnie d'apprentis d'Auteuil et à l'occasion de la sortie annuelle de leur baromètre de l'éducation, eh bien on prend le pouls du climat scolaire, on s'interroge sur la nature de cette violence et on se demande comment l'endiguer.
Et trois invités sont avec nous dans cette première partie.
Bonjour, je vais commencer par vous, Pascale Lemaire-Tocquec.
Bonjour.
Vous êtes la directrice des ressources éducatives d'Apprentis d'Auteuil. Vous nous expliquez pourquoi Apprentis d'Auteuil s'est engagé sur cette question de la violence à l'école. Je crois que ça fait 20 ans que vous êtes engagé sur cette question.
Oui, ça fait 20 ans qu'on est engagé sur cette question. Et évidemment, on s'y est engagé parce que la question de la violence globalement dans tous nos établissements et à l'école en particulier n'est pas acceptable. Et qu'on pense que la première chose à faire, c'est de le regarder en face pour trouver les solutions pour la traiter. Donc on est une institution éducative, on se doit de protéger les enfants, c'est notre mission première, et en cela évidemment il faut les protéger de toute forme de violence. Donc la première chose, une des choses très importantes qu'on a faites, c'est de mettre en place un observatoire interne des situations de violence qui oblige l'ensemble des éducateurs, des enseignants, de tous ceux qui sont auprès des enfants, de signaler les cas de violence, quels qu'ils soient, et quelle que soit la nature de ces violences. Et avec cet observatoire, on analyse chaque année ce qui se passe. Voilà.
Donc et la première chose, c'est bien de nommer
ces violences. La première chose, c'est de nommer, voilà. Et ce qui nous a incité à aller un cran plus loin cette année, avec le baromètre, c'est que l'année dernière, on a interviewé 5000 jeunes, on a fait 60 groupes où on a réuni des jeunes et des familles d'apprentis d'Auteuil pour qu'ils nous parlent de leurs préoccupations, globalement. Mmh. Et ce qui est beaucoup ressorti, c'est cette question de la violence. Donc ça nous a beaucoup interpellés et on s'est dit, il faut qu'on aille encore un cran plus loin.
Merci beaucoup Pascale Lemaire-Tocquec d'être avec nous ce matin. Éléonore Carré, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes la directrice du département Opinion et Politique chez OpinionWay. OpinionWay, c'est un institut de sondage. Hein. C'est vous qui avez réalisé ce baromètre sur la violence à l'école pour apprentis d'Auteuil. On parle facilement de ces questions de la violence à l'école. Les adultes, les adolescents que vous pouvez rencontrer sur ces questions, ils se confient facilement.
Alors comme vous le disiez,
la parole se libère, et ça c'est quelque chose d'assez réjouissant sur ces thématiques, parce que ça permet vraiment de mesurer l'ampleur de ces phénomènes de violence. Et la première chose qu'on observe, c'est globalement, oui, on parle de ces violences. Dans notre étude, on observe que les adolescents parlent autour d'eux de ces violences. Néanmoins, on a près d'un jeune sur cinq, près de 20%, qui nous disent n'en parler strictement à personne. Personne du tout.
Un sur cinq, c'est énorme quand même.
C'est énorme.
C'est des gamins qui sont complètement isolés.
Qui sont complètement isolés. Et d'ailleurs, c'est une des premières conséquences qu'ils observent eux-mêmes et leurs parents des violences à l'école. C'est l'isolement social que ça crée, le renfermement, le repli sur soi.
Merci beaucoup, Éléonore Carré. On verra en détail ce que nous apprend cette étude. Dernier invité dans cette émission, Rémi Casanova, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes sociologue, vous êtes enseignant-chercheur à l'Université de Lille en sciences de l'éducation, vous êtes spécialiste des institutions et notamment les institutions éducatives. Vous êtes aussi, vous avez aussi beaucoup travaillé sur la question du bouc émissaire. Alors moi ça m'a interpellée sur une radio chrétienne, cette notion de bouc émissaire. Est-ce que vous pouvez nous dire, alors je sais que vous pourriez faire une thèse là-dessus, mais en une minute, en quelques phrases, en 2022, à l'école, qui sont les boucs émissaires? De quoi parle-t-on quand on parle de boucs émissaires?
Alors effectivement, on pourrait en parler pendant très très longtemps, mais de façon très simple, il faut comprendre que le mécanisme du bouc émissaire, c'est un mécanisme qui est universel et intemporel. Donc c'est pas étonnant que tout le monde puisse en parler, s'en emparer à n'importe quelle époque et dans n'importe quelle institution, dont l'école. C'est un mécanisme en fait qui permet la réconciliation momentanée des membres d'un groupe, et pour y parvenir, elle exclut le groupe exclut l'un de ses membres ou une partie de ses membres et en s'appuyant sur un processus de substitution. Alors substitution à quoi? C'est-à-dire que comme des vrais problèmes, des antagonismes réels, des tabous au sein du groupe sont impossibles à aborder, eh bien on prend comme prétexte d'accuser l'un des membres du groupe. C'est plus facile, ça permet soi-même d'éviter de se regarder dans la glace. Et puis l'exclusion, et c'est en ça que ça nous ramène à la question du harcèlement notamment, c'est que par un processus de désignation d'abord, puis d'affaiblissement, puis de mise à l'écart, systématique avec plus ou moins de brutalité, eh bien le groupe exclut l'un de ses membres. Voilà, donc l'école n'est pas épargnée par ce phénomène-là, mais comme toute institution, je dirais. Alors là, peut-être la spécificité de l'école, comme d'ailleurs toute institution, c'est sa mission. Et comme ça a été très bien dit précédemment, la mission éducative de l'école oblige d'une certaine manière cette institution à regarder plus en détail les phénomènes d'exclusion et surtout les phénomènes de prétexte, c'est-à-dire au fond le bouc émissaire dédouane le groupe et peut-être même au-delà du groupe l'institution de se poser des questions qui sont fondamentales pour elle, notamment celles du décrochage scolaire, de l'échec scolaire et de la difficulté à travailler.
Et quand je vous entends parler et expliquer ce que c'est que ce bouc émissaire, je repense à ce jeune garçon que notre professeur mettait sous son bureau et cela nous faisait bien rire. Merci beaucoup Rémi Casanova d'être avec nous ce matin.
Voilà, trois invités pour parler des violences à l'école. Vous avez également la parole au 04 72 38 20 23. On accueillera Anne dans quelques minutes d'ailleurs. Et puis ce baromètre, Stéphanie, qu'on va regarder tous ensemble. Enquête sur les violences à l'école réalisée par Apprenti d'Auteuil avec Opinionway.
Ah, c'est à moi. J'attends une petite virgule. Eh ben, on y va. On commence avec vous, Éléonore Carré. Qu'est-ce que nous apprend ce baromètre du climat scolaire actuel?
Alors, la première chose qui est très interpellante, c'est de constater que trois quarts des jeunes que nous avons interrogés nous disent avoir vécu des violences à l'école.
Trois quarts des jeunes?
Trois quarts des jeunes. 77% nous disent avoir vécu au moins une forme de violence à l'école. La première chose, c'est que les violences verbales sont les plus importantes, celles qui ressortent le plus. Mais comme on avait pu échanger déjà avec Pascal, en fait, quand on autorise la violence verbale, on permet aussi d'avoir d'autres violences qui se propagent, et notamment des violences psychologiques, des violences physiques. Elles sont aussi existantes.
Vous êtes en train de nous dire qu'en fait, une insulte, c'est grave, c'est pas anodin?
Une insulte, c'est grave. Une insulte, c'est grave. Et ça se complète par des moqueries. Le fait, on a tous connu ça, de ne pas être populaire, de ne pas avoir les bons vêtements, la bonne coiffure. Finalement, répéter de manière systématique, ça devient du harcèlement. Et ça a des conséquences vraiment néfastes, on le sait, sur les jeunes qui sont victimes de ces violences et se replient sur eux-mêmes. Donc on a ces violences-là, on a trois quarts des jeunes qui sont concernés. Il faut savoir aussi que ce ne sont pas que les jeunes qui sont à l'origine de ces violences, mais aussi les adultes dans l'enceinte scolaire. 43% des jeunes que nous avons interrogés nous disent que un professeur, un pion, quelqu'un en tout cas dans l'enceinte scolaire a été à l'origine de violences à son égard.
C'est-à-dire que l'école est un lieu de violence pour tous ?
L'école est un lieu de violence, en tout cas c'est perçu comme tel aujourd'hui à la fois par les jeunes que nous avons interrogés, mais aussi par les parents de ces jeunes. Tout le monde s'accorde à dire qu'aujourd'hui, l'école est un cadre qui autorise, ou en tout cas qui donne lieu à des violences. Un jeune sur trois dit ne pas se sentir en sécurité à l'école.
Est-ce que la situation s'est réellement dégradée, ou est-ce que c'est notre ressenti qui a changé et des choses qui ne passent plus ?
Alors c'est difficile de répondre à cette question dans la mesure où c'est la troisième vague de ce baromètre, que c'est la première fois qu'on s'intéresse aussi profondément à ce sujet. Donc nous n'avons pas d'historique qui date de plusieurs années ou de plusieurs décennies sur le sujet, mais on a quand même posé la question aux parents et aux jeunes de savoir est-ce que vous avez le sentiment que ça s'est aggravé, que c'est devenu plus fréquent, plus inquiétant. Majoritairement, tous nous disent oui, c'est le cas. Les parents qu'on a interrogés aussi nous disent avoir vécu eux-mêmes des violences à l'école, mais ils ne sont qu'un tiers contre trois quarts des jeunes aujourd'hui. Donc on voit vraiment une évolution forte. Après, c'est du ressenti, c'est de la perception. Donc est-ce que finalement, à l'époque aussi, de nos parents, de nos grands-parents, on n'acceptait pas les choses ? C'était baisse la tête et marche, et accepte, et c'est pas grave.
Est-ce que ce qui a changé, c'est pas maintenant les réseaux sociaux ?
Les réseaux sociaux ont une place très très forte, et ça, l'enquête le confirme fortement. C'est le cas. Plus de 80% des jeunes, des parents nous disent « oui, ça accentue ce phénomène, ça donne plus de place ». On le voit aussi avec les groupes WhatsApp qui sont partagés au sein des classes. On a des vidéos, des photos qui humilient des jeunes, qui circulent de téléphone en téléphone. Et les jeunes ne savent pas toujours dénoncer ces phénomènes parce qu'ils ne savent pas toujours s'impliquer et oser dénoncer. C'est difficile de parler. On parlait de libération de la parole, mais il y a une limite. Et en fait, oser parler, c'est oser se mettre en avant, se faire remarquer. Et souvent, les jeunes nous disent il vaut mieux éviter de se faire remarquer.
Et en plus, se présenter comme victime.
Et se présenter comme victime.
Rémi Casanova, je rappelle que vous êtes sociologue. Cette situation qu'on découvre, qui est révélée de ce baromètre, est édifiante. Les chiffres sont vraiment terrifiants. Est-ce que cela vous surprend ? Est-ce que cela rejoint ce que vous pouvez constater, vous aussi ?
Oui, ça rejoint ce que l'on constate, une violence globalement de plus en plus jeune, de plus en plus fréquente, de plus en plus brutale. Alors en même temps, parfois il y a des cycles institutionnels. C'est-à-dire que cette violence-là, et quand on parle de sentiments ou de ressentis, c'est-à-dire que elle est vécue différemment en fonction de la capacité d'une institution à remplir sa mission. C'est-à-dire que la violence, celle que vous avez connue, que j'ai peut-être connue, que certains ont connue historique, qu'on évoquait comme marche et tais-toi, ben c'était justement parce que l'institution marchait. Or, lorsqu'une institution ne marche plus, eh ben, tous les dysfonctionnements qu'on considérait comme relativement acceptables, eh ben, deviennent inacceptables. Et donc, en vérité, ce que nous dit la violence en milieu scolaire, c'est que, comme pour toute autre institution, c'est la mission qui n'est plus remplie, qui est d'autant plus qui, aujourd'hui, est difficile à remplir. Donc, en étant capable de remplir sa mission, en fait, on réduit les phénomènes de violence de façon quasi mécanique.
Pascal Lemaire-Tocqueck, vous avez été surprise par ces résultats ?
Forcément, on a été interpellés, surpris, pas totalement surpris, mais quand même par l'ampleur du chiffre, oui. Mais moi, ce que j'ai envie de dire par rapport à ce chiffre, qui est effectivement très important, alors bien sûr, il y a cette question de perception, c'est que ça serait 5 sur 10, ça serait toujours trop.
Ouais.
Voilà. Donc quoi qu'il arrive, ça nous dit, effectivement, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire M. Casanova,
que l'école va mal.
On a quelque chose à faire. En tout cas, on a quelque chose à faire. On ne peut pas se satisfaire de ce chiffre-là et on ne peut pas se satisfaire de ce qu'on voit en tant qu'institution éducative. Donc on se doit d'agir. Et puis en tant qu'adulte globalement. Je pense qu'il faut aussi, dans le travail qu'on est en train de mener, et je pense que l'étude le dit aussi, associer mieux les parents, les familles, l'ensemble finalement de ce qu'on peut appeler une communauté éducative autour d'un jeune.
Et la première à nous rejoindre au 04 72 38 20 23, c'est vous Anne, bonjour.
Bonjour, Melchior.
On vous écoute. Alors,
oui, moi j'aurais plein de choses à dire, mais je voulais déjà parler quand j'étais enfant, moi. Ma maman a été dans la même école, mais elle y allait que le jeudi. Et comme le jeudi c'était le jour de repos, eh bien ça veut dire qu'elle n'y allait pas souvent. Et si bien que l'enseignante qui lui faisait l'école avait beaucoup de mal à accepter ça. Alors moi, en tant que son enfant, à maman, eh bien, et moi j'avais du mal à l'école, eh bien si bien que elle était un peu dure avec moi, cette enseignante, elle me comparait un peu à maman. Voilà. Et autrement, en tant qu'AVS, j'ai fait, et AESH, j'ai été une élève au niveau des enseignants, parce que j'ai beaucoup appris autour, à côté d'elle. Et ça, je le remercie beaucoup. Et j'ai appris aussi que ces enfants qu'on me confiait, c'était des enfants hyper sensibles, des enfants vraiment à aimer et à prendre soin d'eux. Et je voulais expliquer qu'en fin de compte, qu'en tant qu'AVS, nous étions là pour soutenir les enseignantes. Et vraiment, la complicité entre les enseignantes et nous, c'est extraordinaire pour l'enfant. Voilà.
AVS, auxiliaire de vie scolaire, on précise, Anne. Merci beaucoup pour ce témoignage et d'avoir partagé avec nous vos souvenirs d'enfance. Pascal Lemaire-Tocquec, alors Anne nous parlait d'un cas assez spécifique, hein, d'une maman enseignante dans la même école que sa fille.
Et parfois, il y a la question de la sensibilité aussi, de la mission des adultes qu'on peut avoir.
Je suis très sensible à ce que vient de dire Anne, effectivement, parce que je crois que ce qu'elle dit pointe des choses très importantes, c'est-à-dire le fait qu'il y a un effet miroir entre la manière dont les adultes peuvent travailler ensemble au sein d'une institution comme l'école et les situations de violence entre les jeunes ou entre jeunes et adultes. Donc, quand elle dit « j'ai beaucoup appris, on a travaillé ensemble, on était finalement au service de ces enfants », ça, c'est extrêmement positif.
Là, c'est quand l'école fonctionne bien.
Voilà, et ça, c'est quelque chose qu'il faut aller chercher. On peut faire des choses pour que la coopération entre les équipes éducatives se passe bien. Et puis, effectivement, quand elle dit « ces enfants sont très sensibles », c'est vrai aussi. C'est-à-dire que on a face à nous que ces enfants puissent être parfois victimes de violences ou parfois auteurs. On est face à au même besoin d'éducation, au même besoin d'accompagnement. Et c'est vraiment ça qu'il faut arriver à considérer et à mettre en place.
Et Léonore Carré, là, on vient de parler d'enfants avec une AVS, donc des enfants qui sont porteurs d'un handicap, quel qu'il soit. Quels sont les jeunes qui sont victimes de violences à l'école? Est-ce qu'on le sait?
Alors, la première chose, déjà, c'est de savoir que ça touche aussi bien les filles que les garçons. On n'a pas de différence majeure. C'est des différences de violence, plus souvent des violences verbales et psychologiques surtout envers les filles, et plus souvent des coups, des bagarres, en fait, des violences physiques envers les garçons. Mais ce sont autant les filles que les garçons déjà qui subissent des violences à l'école. L'autre chose, c'est le moment où on subit ces violences. Avant tout, au collège, 71% des jeunes que nous avons interrogés et qui ont été victimes de violences nous disent que c'est arrivé au collège. Donc ça se concentre vraiment sur une période, mais ça ne veut pas dire que c'est abandonné au lycée, ça reste assez fort, pas loin de 30% il me semble, et surtout ça commence très tôt. Ça commence pour 30% dès le primaire et la maternelle. 6%.
La maternelle,
6% ont vécu des violences, ont subi des violences avant l'âge de 6 ans.
Rémi Casanova, le collège, c'est le lieu de tous les dangers?
Oh ben c'est un lieu, on va dire, dangereux, mais pas de tous les dangers. Moi, ça m'étonne pas que les petits-enfants, dès la maternelle, subissent des violences, parce que tout simplement, c'est une question d'organisation pédagogique. Si vous avez suffisamment de matériel pour que tout le monde puisse s'impliquer dans les activités avec son propre matériel, eh ben ça crée pas de rivalité, ça crée pas de jalousie, ça ne crée pas de compétition, et donc si en plus on organise la vie autour de projets qui soient fédérateurs, valeurs fondées sur la collaboration et la coopération, eh ben on évite les phénomènes de violence. Donc en fait, c'est d'une certaine manière le système pédagogique et le type de pédagogie employé dans les structures et jusque dans les classes qui, d'une certaine manière, est le socle de cette violence-là, en tout cas d'une violence intragénérée, parce qu'évidemment, il y a la violence extérieure qui vient aussi au sein de l'école. Donc non, alors évidemment, au collège, il y a la question de l'adolescence, et donc tous les bouleversements qui sont liés à cette question-là, les remises en question, y compris de l'autorité, de la parole des uns et des autres. Mais comment est-ce qu'on devient harcelé? Eh bien, ou victime de violence, on n'est pas étiqueté systématiquement en fonction préalable de ce que l'on est. Par contre, c'est vrai que en arrivant dans un certain milieu, on peut avoir des signes distinctifs qui sont déjà des signes victimaires, qui sont déjà repérés comme des signes d'exclusion. Mais il y a aussi au sein des groupes des signes qui sont construits par le groupe et que donc la dynamique du groupe elle-même crée finalement des éléments de construction d'une victime potentielle.
Est-ce qu'on peut parler, Rémi Casanova, de la violence de l'institution scolaire? Parce que là, on a beaucoup parlé de la violence des enfants entre eux et puis parfois des professeurs qui sont victimes de violence ou des professeurs qui sont auteurs de violence. Mais est-ce que l'institution scolaire est une institution violente?
Ben, fondamentalement, comme toute institution. D'abord, il y a une première violence qui est une violence de sa mission même. C'est-à-dire que les enfants sont obligés d'aller à l'école. Et certains sont pas contents d'aller à l'école. Donc on peut dire que d'une certaine manière, ça fait déjà violence, potentiellement, à certains, ceux qui ne sont pas contents, surtout s'ils vont retrouver des camarades qui vont les persécuter, d'aller à l'école. Donc il y a cette première violence-là qui est liée à la mission. Ensuite, il y a une deuxième violence qui est une violence de fonctionnement, d'organisation. C'est la question de l'organisation interne, combien d'élèves par classe, quel type de pédagogie, etc., etc. Et puis, troisième type de violence, et c'est pour ça que Apprenti d'Auteuil est particulièrement courageux de mon point de vue, c'est la volonté pour une institution de vouloir lutter contre ces violences une fois qu'elles y sont là. Qu'elles sont là. Trop d'institutions taisent la violence, l'ignorent, voire même s'en accommode, éventuellement même l'instrumentalise, et de ce fait, là, c'est un troisième type de violence, qui est une violence institutionnelle, qui, de mon point de vue, est la pire, parce que elle renvoie l'institution à ses propres valeurs, d'une certaine manière.
Qu'est-ce que vous entendez par s'en accommode et même l'instrumentalise, là? Il faut que vous nous expliquiez.
C'est-à-dire que parfois, quand il y a peu de personnel et des personnels qui sont fatigués, plutôt que de régler la violence par eux-mêmes, dans l'intervention, vont préférer faire en sorte que de fermer les yeux.
Fermer les yeux.
Et donc vont... Oui, fermer les yeux, s'en accommoder. C'est la raison pour laquelle votre deuxième partie est d'autant plus intéressante sur les médiations qu'on peut construire dans une institution pour que il y ait d'une certaine manière une chaîne de résolution de ces mécanismes de violence. Et puis l'instrumentalisation, c'est très simple, hein. C'est toujours plus facile de diviser pour régner que d'assumer certaines responsabilités, qu'on soit professeur ou qu'on soit même tout simplement élève dans un groupe. Donc ça peut être instrumentalisé.
Pascal Lemaire-Tocqueq, Rémi Casanova évoquait tout à l'heure la question de la violence extérieure à l'école qui infiltre et qui influence le climat scolaire. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez dans vos établissements et comment ça se traduit?
Oui, évidemment, ça, on le voit, on voit bien quand parfois un enfant peut arriver le lundi matin après un week-end difficile, soit parce que il y a une situation familiale compliquée, soit parce que effectivement il peut y avoir eu une bagarre ou quelque chose qui s'est passé sur les réseaux sociaux juste avant d'arriver. Donc ça influence le comportement de l'enfant au moment où il arrive dans l'école. Mais donc on peut avoir, comme le dit Rémi Casanova, mis en place des processus, des manières d'accueillir les enfants le matin qui prennent en compte ça et qui permettent de donner la parole à ce moment-là, d'exprimer un sentiment, de pouvoir ne pas faire comme si ça... Parce que ne pas faire comme si ça n'existait pas.
On parle aussi de l'explosion des cellules familiales, des familles précarisées, des familles en difficulté de logement. Tout ça, est-ce que ça a une influence sur le climat scolaire?
Au travers de ce que je viens de dire, oui, bien sûr, parce que ça a une influence
plus
sur chacun des enfants.
Plus la vie est compliquée à la maison.
Oui, alors, mais moi, j'aimerais vraiment insister sur le fait que il ne faut pas considérer que la question de la violence à l'école est uniquement le fait des individus et de leurs conditions de vie. Bien sûr que ça joue, mais elle, c'est également le fait de ce qu'on est capable de mettre en place pour que ce phénomène-là baisse et ce qu'on est capable de mettre en place institutionnellement parlant, collectivement parlant, entre les adultes, entre les jeunes et les adultes, et qu'il y a des choses qui peuvent être faites pour traiter ça.
Et ce qu'on a vu avec Rémi Casanova, c'est que c'est une question de volonté.
Voilà, c'est une question de volonté, c'est une question aussi de formation. Il faut former les équipes à être capables d'inventer au fur et à mesure des solutions qui permettent de réguler. Il y a plein de choses qui peuvent être faites. Je pense qu'après, dans la partie JAGI, vous allez voir tout ça, voilà. Et vous allez pouvoir vous rendre compte de ce qui marche, en fait.
Et les violences à l'école, on en parle ce matin dans Je pense donc j'agis en cette journée nationale de lutte contre le harcèlement à l'école. On en parle avec Apprenti d'Auteuil et nos trois invités. Vous continuez de nous appeler au 04 72 38 20 23 pour témoigner. Dites-nous si vous avez déjà subi de la violence à l'école ou alors vos enfants. On accueillera en ce sens Nathalie dans quelques minutes. Petite pause, à tout de suite. Allez, on écoute une chanson de Stiletto tout de suite sur RCF. Une reprise d'un titre de Ben Mazué que vous connaissez certainement. Gaffe aux autres, et on se retrouve juste après dans Je pense donc j'agis pour parler des violences à l'école avec nos invités.
Hey, moi de t'entendre rire ça me suffit. Je serai cette fille qui fait gaffe aux autres. J'ai pas trouvé d'autres raisons pour la vie. Je serai cette fille qui fait gaffe aux autres. Je rêve, je rêve, je rêve, je plaide coupable. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je suis détestable. Je sème, je sème, je sème tout ce que je gagne. Je saigne, je saigne, je saigne car je sais le mal. Je serai cette fille qui fait gaffe aux autres. Le temps qui reste à nous aimer. Je serai cette fille qui fait gaffe aux autres. J'ai pas toujours été de la partie. Je serai cette fille qui fait gaffe aux autres. Tu écris une autre histoire et moi je fuis. Je serai cette fille qui fait gaffe aux autres. Je rêve, je rêve, je rêve. Je plaide coupable, je lève mon verre. Si tu m'aimes, tu comprendras que j'emmène ta peine. Même quand je m'évade, je saigne, je saigne, je saigne car je sais le mal. Je serai cette fille qui fait gaffe aux autres. Le temps qui reste à nous aimer. Je serai cette fille qui fait gaffe aux autres. Le temps qui reste à nous aimer. Je serai cette fille qui fait gaffe aux autres. Le temps qui reste à nous aimer. Je serai cette fille qui fait gaffe aux autres. Qu'est-ce que tu vois dans mes yeux? Qu'est-ce que tu crois que je veux? Qu'est-ce que tu vois dans mes yeux? Qu'est-ce que tu crois que je veux? Qu'est-ce que tu vois dans mes yeux? Qu'est-ce que tu crois que je veux? Qu'est-ce que tu vois dans mes yeux? Qu'est-ce que tu crois que je veux? Qu'est-ce que tu vois dans mes yeux? Qu'est-ce que tu sens? Que nos ivresses soient le fruit de réjouissance. Que je veux. Que la tendresse soit toujours placée devant ce temps qui reste. Qu'est-ce que tu crois? Je veux. Que nos caresses en mêlée soient notre sang. Que nos ivresses soient le fruit de réjouissance. Que je veux. Que la tendresse soit toujours placée devant ce temps qui reste. Que nos ivresses soient le fruit de réjouissance. Que je veux. Que la tendresse soit toujours placée devant ce temps qui reste. Je veux. Que nos caresses en mêlée soient notre sang. Que nos ivresses soient le fruit de réjouissance. Que je veux. Que la tendresse soit toujours placée devant ce temps qui reste. Je serai cette fille qui fait gaffe aux autres. Le temps qu'il reste à nous aimer. Je serai cette fille qui fait gaffe aux autres.
Et oui, à l'école, on fait gaffe aux autres, comme le dit si bien Ben Mazué dans cette chanson. Chanson chantée par Stiletto sur RCF.
Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand et Stéphanie Gallet.
Journée nationale de lutte contre le harcèlement à l'école aujourd'hui. On parle des violences faites à l'école avec Apprenti d'Auteuil. Et nos trois invités, Pascale Lemaire-Tocquec, directrice des ressources éducatives à Apprenti d'Auteuil, Léonore Carré d'Opinion Way et Rémi Casanova, vous êtes sociologue. Nathalie nous a rejoint au 04 72 38 20 23. Bonjour Nathalie.
Bonjour.
On vous écoute.
Oui, je me ferai intervenir à ces sujets parce qu'en ce moment-ci, mes enfants, j'en ai quatre de moins de 13 ans. Il y en a une qui est en troisième et deux qui sont des jumelles en CM2 et leur cadet qui est en CM1. Ben, le 3 qui sont en primaire sont en train de traverser des moments difficiles que je juge, ils sont victimes de violences psychologiques envers des adultes à l'école qui a commencé depuis l'école maternelle très tôt, que j'ai négligé. Alors j'appelle en ce jour de plus ou moins prendre en considération ces violences qui partent de la partialité dans des conflits des enfants, parce que ça part toujours par des conflits que les adultes, je ne sais pas, par manque de patience ou je ne sais pas comment expliquer ça, et les enfants ne sont pas écoutés, ils renvoient tout en bloc, sans bien écouter les autres, qui créent de rancœur. Et puis après, certains enfants cherchent à faire justice eux-mêmes. Et parfois, nous, les parents, ça devient un peu dérangeant d'aller voir des adultes pour de petits soucis, mais qui reviennent souvent, et finalement, qui ne s'écoutent pas. Mais c'est vraiment à ras-le-bol qu'aujourd'hui, que je vois le médecin qui les a demandé de ne pas aller toute la semaine, malheureusement. Ça sera à leur défaveur. Et je suis désespérément en train de chercher un suivi psychologique qui est très lent. J'ai écrit à l'inspection, il n'y a pas de suite favorable. Donc, je suis obligée de faire avec les moyens que j'ai. Je suis seule parent, donc c'est très compliqué. Alors que je m'investis totalement pour l'épanouissement de mes enfants, et c'est des bandes d'élèves, malheureusement, ce qu'ils traversent, ça peut vraiment leur déstabiliser. Et même leur grande sœur en collège, elle en est témoin pour beaucoup de ces genres de violences psychologiques qui a vécu ses sœurs depuis l'école maternelle. Voilà. Bah, elle, malheureusement, c'était un bon élève, un peu plus tranquille par rapport à mes enfants. Elle était plus favorisée, même comme c'était cette faveur qui la plaît pas, qui la déplaît. Elle a toujours envie de dénoncer cela, que les adultes n'ont pas à favoriser d'autres élèves par leur tempérament ou quoi que ce soit, parce que c'est pas tous les enfants qui ont le même tempérament, en leur caricature, et ça fait très mal aux enfants, voilà.
Merci beaucoup Nathalie, merci pour ce témoignage dans Je pense donc j'agis. On va pouvoir rebondir avec nos invités. Pascal Lemaire-Tocac, comment réagir quand on est parent et qu'on constate justement ces violences psychologiques chez ses enfants, parfois de la part d'adultes, comme nous le rappelle Nathalie?
Bah, je pense que Nathalie a raison. En tant que parent, il faut réagir. C'est toujours la même chose. Il faut pas se taire. Il faut parler. Il faut chercher les lieux où on peut être écouté. Alors, ce que j'entends et ce qui est dur dans le témoignage de Nathalie, c'est que elle trouve pas ces lieux où là, à ce stade, elle a pas trouvé les lieux où elle pouvait être écoutée et où ses enfants pouvaient être écoutés. Mais c'est effectivement très important, et ça renvoie à ce qu'on se disait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il faut, moi, ce que, quand je l'écoute, je me dis ce qui serait intéressant de mettre en place là, au moins, c'est qu'il y a un lieu de médiation possible. C'est ce qu'on fait au sein d'Apprenti d'Auteuil, c'est d'avoir des dans nos établissements, d'ailleurs des jeunes qui sont mobilisés volontairement et qui s'inscrivent pour devenir médiateurs avec des adultes, et que du coup, un enfant qui est victime comme ça d'une violence, y compris de la part d'ailleurs d'un adulte, peut faire appel aux médiateurs, et le fait qu'il y ait parmi les médiateurs des adultes et des jeunes permet aussi d'équilibrer la situation. Donc là, moi, j'ai évidemment, n'étant pas dans l'établissement des enfants de Nathalie, j'ai pas de réponse directe à sa question, c'est compliqué, mais je pense qu'il faut qu'elle continue à chercher le lieu où elle peut être écoutée et entendue. Ça, c'est très important.
Rémi Casanova, je trouve que Nathalie a des mots très délicats pour dire ce qui se passe entre ses enfants et les enseignants autour d'eux. Elle dit que ça commence par des petites choses, presque des broutilles. On aurait pas envie de réagir, mais en fait, il faut toujours prêter attention à ça.
Ah oui, 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 c'est fondamental. Il faut être en éveil permanent. Alors, l'idéal, ce serait que les élèves eux-mêmes soient capables de regarder à quel moment ils commencent à être isolés, à partir de quel signe dont ils sont porteurs, ils commencent à être mis à l'écart. Et puis, d'un point de vue de l'institution, puisque on est de fait dans des institutions qui sont inclusives aujourd'hui, l'hétérogénéité devient la règle. Et donc, ça veut dire que la pédagogie différenciée, la pédagogie individualisée, individualisée doit aussi être la règle et qu'il faut passer d'une pédagogie de la compétition à une pédagogie de l'émulation, c'est-à-dire une pédagogie
c'est-à-dire
de la réussite de tous.
Tous les enfants, quelles que soient leurs compétences scolaires, quel que soit leur caractère, ils ont leur place dans une classe et on doit s'adapter à eux, à leurs différentes personnalités.
Non, moi je dis pas ça. Moi je dis qu'à partir du moment où ils y sont, il faut faire avec. Donc après, les structures d'orientation sont compétentes pour dire quel type d'élève peut aller dans tel type de classe. Mais à partir du moment où on fait le pari de l'hétérogénéité, non pas comme une difficulté, mais comme quelque chose de partie prenante de la vie sociale, voire même, pourquoi pas, une richesse à certains moments, eh ben, il faut se donner les moyens de cela, et ça passe par la pédagogie, et en passant par la pédagogie, et en mettant des élèves en situation, comme je le disais tout à l'heure, de collaboration, et non pas de compétition, ben, ils apprennent à vivre ensemble, à travailler ensemble, et en fait, à être dans une logique d'émulation, pour être meilleur qu'eux-mêmes, et pas être jaloux du voisin, ou lui faire du mal, parce qu'ils considèrent que le voisin réussit moins. Et ça, c'est une révolution à la fois psychologique de la part de la posture enseignante, mais aussi institutionnelle. C'est-à-dire qu'il existe quand même des pédagogies qui prennent en compte ces différences-là, et il est peut-être temps que structurellement, les institutions en prennent aussi la mesure.
Éléonore Quéré, vous voulez réagir au témoignage de Nathalie ?
Mais c'est... C'est exactement ça, le fait de prendre la mesure, que les institutions prennent la mesure de ce qui se passe. Et ce qui m'a frappé, ce qui m'a vraiment marqué dans le témoignage de Nathalie, c'est de ne pas trouver de personnes qui écoutent ce qu'elle a à raconter et ce que vivent ses enfants. Nous, ce qu'on a constaté dans notre étude, c'est que globalement, parents comme adolescents nous disent la parole des victimes de violences dans l'établissement scolaire fréquenté ne sont pas suffisamment entendues. Ils sont 62% à nous dire qu'ils ne sont pas suffisamment entendus. Et quand on interroge les victimes elles-mêmes de violences à l'école, eh bien, certes, 30% environ en ont parlé soit à leurs enseignants ou à la direction de l'école, mais dans la moitié des cas, ces personnes ne sont pas senties soutenues par leurs interlocuteurs, donc par leurs enseignants, par la direction. Donc comment on fait à partir du moment où, certes, on va en parler, on témoigne, on ose libérer la parole, mais on n'a pas de réponse suffisante et adaptée, et c'est une déception et ça entraîne ce repli sur soi dont on parlait tout à l'heure.
On retourne au standard. Rose nous attend. Bonjour Rose.
Oui, bonjour. Bonjour Melchior. Voilà, je vous appelle parce qu'en fait, pendant plusieurs années, j'étais intervenante bénévole dans deux écoles privées et publiques. Donc des écoles primaires, j'avais la grande section au CE1 pendant le cadre périscolaire, et je me suis aperçue de la violence des... Alors j'ai entendu parler du mot pion tout à l'heure, donc des pions...
Des surveillants, oui.
Des surveillants qui en fait ne parlaient pas aux enfants, mais leur aboyaient dessus. Et tout ça pendant 2 heures, entre midi et 2 heures, et répéter les mêmes choses le soir après l'école. Donc en fait, si l'intervenant est agressif, comment un enfant ne peut pas reproduire si déjà dans le cadre scolaire, on ne leur parle que comme ça.
Merci beaucoup Rose, merci beaucoup pour ce témoignage. Pascal Lemaire-Toquec, j'ai l'impression que vous êtes d'accord avec ce témoignage de Rose. Est-ce que les enfants peuvent reproduire facilement cette violence, ou ces aboiements comme a dit Rose?
C'est très fort.
Oui. Ouais. Oui. Bah, oui, forcément, je suis d'accord. Je l'ai dit d'ailleurs tout à l'heure. Hein, si on n'a pas une équipe d'adultes,
là, on parle
en face
de la formation,
jeunes,
en fait.
Ouais, c'est ça, et qui est formé et qui sait que ça n'est pas acceptable d'aboyer sur un enfant. Ça peut pas marcher, et en face ça génère des comportements similaires, c'est évident. Donc il y a ce parallélisme là, il existe, il est humain, psychologique. Alors, donc c'est certain, le sujet c'est la formation, et le sujet c'est, de la part de l'institution, zéro tolérance sur ce phénomène là.
Moi j'aurais prendre la défense des profs qui aboient. Parce que c'est facile aussi de jeter la pierre ceux qui se coltinent une classe, enfin des classes toute la journée.
Non, mais je jette pas la pierre.
On sait qu'il y a un épuisement des profs, on sait qu'il y a même des éducateurs. Comment on fait pour les soutenir dans ce cas-là?
La manière dont on peut les soutenir, c'est 1. la formation, à condition que la formation ne soit pas juste, de la même manière, ne soit pas simplement un lieu où on amène du savoir, mais aussi un lieu où on peut partager sa pratique, partager ses difficultés, chercher des solutions ensemble. Et c'est des lieux au sein de ces institutions, au sein des écoles, où les adultes aussi peuvent réguler entre eux, peuvent se parler, peuvent exprimer les difficultés et peuvent travailler dessus ensemble. Donc il y a toute cette question, Rémi Cosanova l'a évoqué tout à l'heure, de la collaboration, du collectif entre adultes qui est extrêmement important et qu'il faut développer à l'école. Il y a besoin de ça. On ne peut pas rester seul face à cette situation. Rémi Cosanova l'a évoqué, hein, c'est le fait que l'école soit inclusive, et on est évidemment, chez Apprenti d'Auteuil, on est forcément totalement pour ça, mais ça c'est très exigeant pour les adultes, et donc il y a besoin aussi de prendre soin d'eux, c'est évident.
On a un message de Sandrine, elle nous a laissé un mail à direct@rcf.fr, elle nous dit « Je trouve que les profs et les directeurs ne sont pas tous bien formés, ne savent pas toujours comment réagir quand on leur parle de cas de violence ou de harcèlement. » Rémi Cosanova, on en a parlé un petit peu dans cette émission, mais ça aussi c'est un point très important dans ce débat qu'on a depuis le début, la formation des enseignants, des encadrants.
Alors, c'est-à-dire qu'en fait, on peut considérer la formation comme étant nécessairement une formation tout au long de la carrière. C'est-à-dire que l'usure professionnelle, ça touche tous les métiers. Et que la personne, si elle a la capacité à se renouveler dans son regard, dans ses pratiques, dans l'adaptation au monde qui change, eh ben ce sera plus facile que si elle n'en est pas capable. Et donc on peut considérer que la formation tout au long de la carrière, c'est un élément qui permet de mettre ça en place. Mais alors donc il y a des formations qui peuvent être des formations externes, mais il y a aussi des formations internes. C'est-à-dire, moi je crois très très fortement à la capacité dans des projet fédérateur à renouveler l'enthousiasme des professeurs. Et de fait, en étant dans un projet fédérateur donc partagé, eh bien, les dysfonctionnements éventuels peuvent être compensés et rectifiés par justement le collectif dont on parlait. Voilà, mais il ne faut pas avoir peur aussi de dire qu'à un moment, on est fatigué et qu'on a besoin de changer de métier. À un moment, il faut
être
capable de bifurquer.
Hein. C'est compliqué aujourd'hui. On sait qu'il y a de plus en plus de départs de l'éducation nationale, mais la reconversion est compliquée, elle n'est même pas du tout encouragée.
Oui, et ben ça c'est un travers qui n'est pas que de l'éducation nationale. La question des bifurcations professionnelles est essentielle. C'est-à-dire qu'il faut, je crois, aujourd'hui se préparer à ne pas avoir toujours le même métier, ni la même fonction, encore moins le même statut tout au long de sa carrière. On ne rentre pas comme on rentrait à l'époque dans le métier d'enseignant pour 45 ans.
Mais en même temps, pour vous, il n'y a pas de fatalité. On peut endiguer la violence à l'école, Rémi Cosanova.
Ah ben bien sûr, heureusement d'ailleurs. On peut l'endiguer d'abord parce qu'on considère étymologiquement que la violence c'est de la force qui est mal dirigée. Donc c'est-à-dire que cette énergie-là, toute l'énergie qu'on a en soi et qu'on dirige pour faire le mal, on peut très bien la diriger pour faire du bien. Et ça c'est un pari, je dirais même philosophique, c'est-à-dire c'est le pari de l'éducabilité. On peut considérer que quel que soit l'état de la personne, quel que soit même les actes de la personne, elle peut se rectifier et on peut aller dans le bon sens. Sauf que il faut à la fois une prise en compte individuelle de la personne. Il faut des dynamiques collectives et il faut que l'institution soutienne tout ça, y compris par une politique volontariste, à la fois de fond sur la pédagogie et puis plus superficiellement dans la capacité à prendre les sanctions lorsqu'elles sont nécessaires. Et elles sont forcément nécessaires parce que d'une certaine manière, c'est rendre la dignité de la personne qui a commis un acte violent que de considérer cet acte-là et d'essayer de le rectifier.
Éléonore Carré, je crois que vous vouliez réagir sur les sanctions.
Oui, effectivement, les parents, les adolescents qu'on a interrogés nous disent tous que vraiment c'est la première mesure à prendre pour mettre fin aux violences à l'école, c'est sanctionner plus sévèrement ou au moins déjà sanctionner les auteurs de ces violences. On est à plus de 50%, voire 60% qui nous disent que c'est ça qu'il faut faire avant d'autres mesures qui sont certes aussi efficaces et importantes, mais vraiment les sanctions sont la première manière de dire stop, on ne tolère pas ça.
Pascal Lemaire-Tocqueque, vous aussi, alors, pas de fatalité
Alors pas de fatalité, c'est certain. Je pense que je ne travaillerais pas chez Apprenti d'Auteuil si je pensais qu'il y avait une fatalité. Non, pas de fatalité, ça c'est certain. Et pour revenir sur le témoignage de Nathalie tout à l'heure pour ses enfants, pas de fatalité non plus pour des enfants qui ont subi des violences. Bien sûr qu'il peut y avoir des conséquences importantes, on le sait. Néanmoins, on peut revenir dessus si on est bien accompagné. Il n'y a pas de fatalité de ce côté-là. Donc il n'y a pas de fatalité pour les auteurs, il n'y a pas de fatalité pour les victimes, il n'y a pas de fatalité pour le système. On peut faire des choses.
Alors justement,
après, j'aurais pas dit que les sanctions sont la première solution, parce que la première solution, c'est la prévention. C'est tout ce qu'on a dit. Mais ça n'empêche pas, effectivement, que s'il y a un acte posé, il faut que la personne soit en mesure de réparer cet acte, et la sanction est une manière de commencer à réparer.
Alors j'entends bien votre optimisme, il n'y a pas de fatalité, on peut se remettre debout pour les victimes, se convertir en même temps pour les harceleurs et les personnes violentes, mais pour l'institution, puisque c'est ça aussi qui nous intéresse, c'est-à-dire comment est-ce qu'on change la donne, comment est-ce qu'on fait de l'école à nouveau un lieu apaisé, serein, pour que chacun puisse grandir dans des bonnes conditions. Qu'est-ce qui marche? Alors, il va y avoir une heure après où on va parler de la médiation, mais est-ce qu'il n'y a que la médiation? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Par quoi on commence? Il y a peut-être des gens autour de nous qui travaillent dans l'éducation. Par quoi faut commencer? Pascal Lemaire-Tocqueque.
Je crois que Rémi Casanova l'a effleuré en disant, enfin l'a plus qu'effleuré, a évoqué clairement le fait que la première chose à faire, c'est qu'institutionnellement parlant, dans un établissement scolaire, on mette en place les lieux qui permettent que les adultes se parlent entre eux, les jeunes puissent parler entre eux, avec les adultes, et les jeunes puissent se parler entre eux, et que ça soit institutionnalisé,
c'est-à-dire
que ça soit
accompagné,
exactement, qui est ce cadre-là pour que la parole se libère. Donc ça, c'est la première chose à faire, et c'est quelque chose qui se renouvelle au fil du temps. Il a parlé, Rémi Casanova, du renouvellement des carrières, mais aussi le renouvellement de ce qu'on fait dans un même établissement. Et donc, il faut que ce renouvellement-là soit institutionnalisé. C'est-à-dire qu'on puisse travailler en permanence sur les solutions à mettre en place et faire évoluer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on l'a dit tout à l'heure aussi, c'est en parallèle, c'est la formation. On parle beaucoup d'éducation des enfants. L'école est là pour ça. Mais il faut que les adultes continuent à se former tout au long de leur vie professionnelle, quel que soit le métier, et évidemment sur un métier d'enseignant ou d'éducateur, face à des enfants qui changent plus vite que nous, c'est plus qu'important aussi. Donc déjà, si on a ces deux éléments-là, et qu'on joue la partie collective de façon beaucoup plus importante, on avance. Le troisième élément, je dirais, c'est l'alliance entre toutes les personnes qui sont autour du jeune, que ce soit les enseignants, les éducateurs, on a parlé d'animateurs, et les familles, évidemment. C'est d'associer aussi beaucoup plus fortement les familles à tout ce travail qui est fait pour faire ce lien entre le dehors et le dedans, quand on parle de l'école.
Rémi Casanova, par quoi on commence pour vous ?
Moi, c'est simple, c'est remplir sa mission. Une institution éducative, elle est là pour éduquer. Donc, remplir la mission, c'est la première des préventions à la violence. C'est-à-dire que si tout le monde est bien éduqué, si on a les conditions d'éducation, c'est parfait. Et d'une certaine manière, Apprenti d'Auteuil
a bien compris ça. Ça veut dire quoi, bien éduqué ?
Ça veut dire permettre d'apprendre, que l'enseignant enseigne et que l'élève apprenne, mettre en place les conditions pour que chacun puisse remplir sa mission. Et d'une certaine manière, quand Apprenti d'Auteuil a bien compris ça, parce que il y a un livre qui sort autour d'Apprenti d'Auteuil, face au décrochage, aux éditions Champ Social, à l'instant où l'on parle, chronique d'une institution pédagogue. Eh bien, je pense qu'Apprenti d'Auteuil a bien compris que en luttant contre le décrochage, elle lutte contre la violence. Et c'est la première des préventions. Alors après, il y a plein de choses qu'on pourrait développer, mais on n'a pas le temps là maintenant.
Et quand même, est-ce que pour vous, quelles sont les conditions dans lesquelles ce travail d'éducation peut se faire sereinement? Est-ce que c'est le nombre d'élèves par classe? Est-ce que c'est une question de budget? Est-ce que c'est...
Non, c'est une question. D'abord, l'acte d'éducation, ça c'est la sagesse, enfin l'histoire de la pédagogie qui nous montre ça. C'est que l'éducabilité se développe dans n'importe quel milieu. C'est-à-dire que, y compris dans les milieux les plus contraints, on peut faire acte éducatif. Donc c'est pas une question de moyens, c'est pas une question de budget. Alors certes, ça aide. Plus on a de matériel, plus c'est facile. Moins on a d'élèves par classe. Mais globalement, c'est quand même une question d'organisation structurelle de l'institution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que fondamentalement, un prof, une classe, c'est quelque chose qui est dépassé. Un prof, une classe, au moment des réseaux sociaux où tout le monde est sur TikTok et regarde des trucs de 3 secondes, avoir le même prof pendant une heure, voire 3 heures, voire toute une année, c'est terrible. C'est une punition terrible pour celui... alors si on ajoute à ça la contrainte du corps où on est assis pendant très longtemps, et alors qu'on a besoin de bouger, vous comme moi, voilà aussi qui est terrible. Donc il y a structurellement des choses, je pense, qui sont à revoir aujourd'hui et qui sont les bases en fait de la prévention de la violence.
C'est-à-dire qu'il faut tout réinventer l'école pour vous?
Ben non, elle a déjà été inventée. Tous ces systèmes-là sont déjà inventés, en fait. Hein. Il faudrait être à l'écoute de l'histoire de la pédagogie et des pédagogues, parce qu'en fait, tout ce que je dis là est vieux. Il suffit de s'intéresser à la pédagogie institutionnelle, par exemple, aux pédagogies coopératives, voire même aux pédagogies de l'empathie, pourquoi pas, hein, si on considère que les individus, là, dans le cadre du harcèlement, en manquent. Voilà, tout ça existe, en vérité.
Pascal Lemaire-Tocqueck.
Oui, c'est vrai que ça existe.
On a tout le savoir possible, c'est juste une question de volonté maintenant.
C'est une question de... Alors on pourrait dire c'est une question de volonté et c'est une question de capacité établissement par établissement à mettre en place ce cadre que Rémi Casanova évoque, que je ne vais pas répéter. Mais donc il y a effectivement cette volonté et je dirais quand même qu'il y a de l'accompagnement. C'est-à-dire que quand même quand on regarde les établissements scolaires, bon chez Apprentis d'Auteuil évidemment on est bien placé pour ça, on voit bien que le quotidien des équipes éducatives et enseignantes est compliqué et très dense, donc ça il faut pas le négliger. Et ça veut dire que pour pouvoir penser tout ce qu'il est en train d'évoquer là, ne fût-ce que le plus basique de l'organisation, des espaces, d'écoute, etc., il faut un peu d'accompagnement pour sortir la tête de l'eau, regarder ce qu'on est en train de faire d'un peu plus haut, prendre du recul. Ça, c'est pour tous les métiers pareils. Donc, on a besoin de ça. Donc, on a besoin d'accompagner aussi le système pour qu'il évolue.
Éléonore Carré.
Je rebondis sur les deux interventions. Effectivement, on a tout le savoir et on a plein de choses qui existent déjà pour
les boîtes à outils sont à notre disposition.
C'est ça. Et après, ça ne veut pas dire non plus revenir à une époque qui est dépassée. Dans les solutions qui sont évoquées, le port de l'uniforme ou séparer les filles des garçons, c'est pas du tout une solution qui arrive en tête. Alors, on en a quelques-uns qui trouvent que c'est une bonne chose, mais c'est vraiment en fin de classement, c'est pas du tout.
On avait un homme politique ce matin dans la matinale qui prenait le retour à l'uniforme. C'est pas ce que vous défendez.
Alors, il y a quand même 19% des parents qui pensent que ce serait une bonne chose, hein, ce qui est pas mal, mais les jeunes ne sont pas du tout favorables. En revanche, ce qui est interpellant, c'est de voir comment ils sont sensibles à une solution qui, pour la part, moi, m'a étonnée. On a 30% des jeunes qui nous disent que si on installait des systèmes de vidéosurveillance dans les écoles, on pourrait lutter contre les violences à l'école, ce qui est assez surprenant parce que c'est particulièrement coercitif, c'est vraiment une emprise sur leur liberté.
Ils se sentiraient peut-être en sécurité, c'est ça ?
Mais ils se sentiraient peut-être plus en sécurité.
Rémi Casanova, rapidement, sur ces mesures qui viennent d'être évoquées, les garçons, les filles d'un côté, l'uniforme, la vidéosurveillance dans les classes.
On a deux choix. Pour lutter contre le bouc émissaire, c'est la question du signe distinctif qui devient un signe victimaire. Donc on a deux pistes. On a soit on supprime les signes distinctifs, c'est-à-dire on met l'uniforme, soit on accepte les signes distinctifs et on apprend à accepter, voire à s'enrichir de la différence. C'est deux pistes que certains hommes politiques ou certaines institutions prônent. Et à titre personnel, je préférerais l'apprentissage de la différence.
Allez, pour terminer, Pascal Lemaire-Tocqueck, je crois qu'on approche de la toute fin de cette émission. Est-ce que vous auriez un mot pour conclure, une réflexion à insuffler à nos auditeurs ?
Un mot pour conclure, cette importance de la parole. Cette importance de la parole, des lieux pour l'apprendre et du cadre qu'on peut poser, nous, institutions éducatives, pour que ça soit possible.
La parole pour faire gaffe aux autres. Et on a une petite pensée pour Nathalie et ses enfants.
Absolument, Stéphanie. Merci beaucoup pour cette première partie. On a beaucoup pensé, on a beaucoup réfléchi. Bah maintenant, on va agir. On va trouver des solutions et ça peut passer par la médiation qui se développe ici et là dans les établissements en France. On va prendre l'exemple, bien sûr, des établissements Apprentis d'Auteuil dans un instant avec nos trois invités qui vont nous rejoindre et toujours avec vos témoignages au 04 72 38 20 23. Si, voilà, vous avez connu une situation de violence à l'école, comment avez-vous été accompagné? Est-ce que vous savez si dans l'établissement de vos enfants, il y a un système de médiation pour les élèves et pour les professeurs. On vous attend à l'antenne 04 72 38 20 23 par mail à direct@rcf.fr et dans le groupe Facebook. Je pense donc j'agis. À tout de suite.